France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets de campagne sont en Alsace cette semaine, département du Bas-Rhin, celui qui est en haut sur la carte. Et les deux initiatives dont je vous parle aujourd'hui forcent l'admiration dans deux univers assez différents. D'abord un matériau innovant et ensuite des tricoteuses infatigables. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Et si les montures de lunettes, ou les pots à crayons, ou les meubles étaient fabriqués à partir de déchets alimentaires, du marc de café, de la drèche, résidu de céréales utilisées par les brasseurs, du marc de pomme, ce qu'il reste après avoir fait du jus. Oui, tous ces biodéchets pourraient devenir des objets solides, durables, des objets du quotidien. C'est l'ambition d'une association strasbourgeoise qui s'appelle Atelier Circulaire. Bonjour Marion Roulet.
Bonjour Dorothée Barba.
Vous êtes ingénieure en sciences des matériaux, Marion. Vous en êtes au stade des échantillons hein, pour l'instant. Vous ne fabriquez pas encore d'objets. Mais c'est une perspective assez réjouissante, je dois dire. Hein. Transformer des déchets organiques en matière solide. Comment est née cette idée ?
Alors c'est une idée qui est née d'une envie de recyclage, mais pas de matériaux, pas de biodéchets, plutôt de recyclage de mes conséquences. Après ma thèse de doctorat, qui était sur la texture du yaourt, je me suis questionnée sur ce que j'allais bien pouvoir faire de toutes les choses que j'avais apprises et je suis tombée sur cette idée de transformer des biodéchets en objets.
Recyclage de compétences. Comment est-ce qu'on passe du yaourt au marc de café, dites-moi ?
On passe du yaourt au recyclage de matériaux en ayant un regard critique, et en particulier pour moi sur l'industrie agroalimentaire. Je trouvais que les paysans étaient beaucoup plus utiles que moi dans mon petit labo. Et donc j'ai voulu... aller vers des matériaux qui sont plus utiles pour notre quotidien.
L'idée, c'est de rendre solide un déchet organique qui, a priori, ne l'est pas du tout. Hein.
Oui, tout à fait. Donc, solide ou souple, en tout cas, on essaie de faire des matériaux à partir de choses qui, à la base, sont des poudres ou des épluchures, des déchets comme on les voit dans nos poubelles organiques.
Bon, j'imagine qu'il y a un peu de secret qui entoure votre recette, votre dispositif.
Alors, pas du tout. Nous, on se base sur le mouvement de l'open source, donc tout est ouvert. Et notre but, c'est de documenter tout ce qu'on fait pour que les personnes, les collectifs, puissent le reproduire ailleurs et l'adapter à leurs ressources. Puisqu'à Strasbourg, nous avons des biodéchets, mais dans le sud-ouest, il y en a d'autres, et dans le reste du monde, il y en a encore bien d'autres.
Alors, le premier objet sur lequel vous travaillez, c'est un pot à semis, je crois, un pot pour planter ses graines. Il est fait en marc de café. Comment est-ce qu'on passe très concrètement du marc de café au pot ?
Alors là, on se rapproche du yaourt. En fait, on utilise un gélifiant alimentaire, de l'agar agar ou de la gélatine, qu'on utilise pour faire des crèmes plutôt. C'est ça qui va nous servir de colle naturelle pour coller notre marc de café et qui va nous permettre de le mettre en forme, en pot, en petite décoration de Noël, selon nos besoins du moment.
Quelles difficultés rencontrez-vous dans ce processus de recyclage des déchets organiques ?
Alors, tout est à construire. Donc, la difficulté, c'est celle qui est inhérente à toute innovation. Il faut qu'on essaye des choses, mais c'est ce qui est aussi enthousiasmant et de façon un peu plus pratique. Nous, on souhaite monter un lieu dans lequel les personnes pourront expérimenter sur toutes ces techniques. Et donc, c'est toutes les difficultés de toutes les associations, j'imagine, à qui vous parlez, de financement, de partenaires, de locaux.
Un Fab Lab, donc, c'est le projet, hein ?
Tout à fait, oui. On souhaite monter une sorte de Fab Lab, mais spécialisé sur les matériaux en biodéchets.
Vous organisez déjà des ateliers pour le grand public. Quelles sont les réactions en général ?
Ça varie beaucoup. Il y a des personnes qui sont sans doute bien renseignées sur les problématiques écologiques, qui comprennent la démarche et qui donc nous apportent beaucoup de soutien et apprécient ce qu'on fait. Il y a des personnes qui sont plus surprises. Mais en général, ce sont des réactions positives, mais ça varie de la surprise au soutien et à l'adhésion complète.
Et vous, quel est votre objet rêvé, si je puis dire ? Le truc que vous aimeriez fabriquer un jour ? Et à partir de quels déchets, surtout ?
Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à faire des planches, parce qu'une fois qu'on a des planches, on peut faire des meubles, on peut faire vraiment plein de choses. Et en termes de déchets, parmi tous ceux que j'ai essayés, j'aime beaucoup les feuilles de thé usagées. donc les feuilles de thé une fois qu'on a fait notre thé, parce que je bois beaucoup de thé et j'adore l'odeur.
Est-ce que le meuble aurait une odeur de thé ?
Il aurait dans un premier temps, oui. Après, c'est pour l'instant, sur les essais que nous avons faits, l'odeur, au bout de quelques mois, disparaît. Mmh. Donc, on peut imaginer que ça sentirait le thé, le Earl Grey, pendant un certain temps dans notre salon.
C'est un peu dingue quand même, non ? Le thé usagé qui devient un meuble. Est-ce que ça paraît possible à grande échelle ?
On revient encore là-dessus sur des questions économiques. Nous, on essaie aussi de s'interroger sur quels moyens de production pour ce genre de matière. Est-ce qu'il faut que ce soit centralisé dans le main d'un gros industriel ou alors que chaque petite sorte de scierie de quartier qui ne ferait pas des planches à partir de troncs d'arbres, mais plutôt à partir des déchets du quartier ou de l'artisan, l'industriel du coin qui fait son thé glacé. C'est ce qu'on imagine, en tout cas. Sans doute pas évident à faire.
Oui, c'est ça, on pourrait, à l'échelle d'un quartier, fabriquer des meubles en récupérant du thé. Effectivement, ça implique de changer d'échelle de production.
Oui, tout à fait. Alors là, nous sommes des toutes petites plaquettes. Il va falloir, à un moment, changer d'échelle. Mais on imagine une échelle quand même qui reste proche du territoire, pour être au plus proche des besoins, et pour essayer de répartir la valeur, comme diraient les économistes, en tout cas lutter contre des modes de production qui favorisent les inégalités.
Les échantillons que vous fabriquez pour l'instant, Marion, ce n'est pas du parquet, ce n'est pas du plastique, ce n'est pas du béton. Est-ce qu'il a un nom, ce matériau ?
Non, et c'est d'ailleurs sûrement un problème dans notre communication. Pour l'instant, on parle de matériaux thermocompressés. Le terme technique, en fait, on compresse une poudre et en la chauffant.
C'est pas très marketing, en effet.
C'est pas très marketing, donc ce n'est pas notre spécialité au sein de l'association.
Atelier circulaire, c'est donc à Strasbourg. Merci beaucoup, Marion Roulet.
Merci à vous, Dorothée.
Et bonne journée. Au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Parlons tricot. À présent, certes, ce n'est pas tellement de saison, mais il faut anticiper et tenir compte du délai de fabrication des bonnets, des écharpes, des gants et des mitaines. Voici une association alsacienne qui tricote pour les plus démunis. Le Tricot Solidaire a été créé par Arlette Fink il y a près de 15 ans et ça tricote follement depuis. Bonjour Arlette.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes à la retraite, vous étiez travailleuse sociale, vous habitez à Kutzenhausen, dans ce qu'on appelle l'outre-forêt, hein, tout au nord de l'Alsace. Comment est née cette idée, dites-moi, au tout départ ?
Alors, au départ, nous sommes donc toutes des bénévoles de la maison rurale de l'Outre-Forêt. Et cette maison rurale anime le lieu régulièrement en mettant en avant tout ce qui était activité des hommes et des femmes dans les années 1920-1950. Forcément, pour les femmes, on va penser à toutes les activités qu'elles avaient dans leur jardin, leur potager, les activités familiales, mais aussi à ce qui fait un petit peu la caractéristique des Alsaciens, les travaux d'aiguille. Les femmes brodaient, tricotaient énormément. Et c'est dans ce cadre-là que la maison rurale a un jour fait une exposition et nous animions quelques-unes en train de tricoter. C'est à cette occasion que nous avons croisé des visiteuses qui nous ont dit qu'elles regrettaient de ne pas pouvoir distribuer ce qu'elles tricotaient parce que personne ne semblait intéressé dans leurs environs, parce que c'était kitsch, que c'était des ouvrages de mémé, etc. Et en même temps, nous avons d'autres personnes qui nous ont dit qu'elles avaient arrêté de tricoter, qu'elles avaient de la laine inutilisée et qu'elles allaient nous l'offrir. Et justement, puisque j'étais une travailleuse sociale à la retraite, j'ai pensé faire une expérience avec certaines de mes anciennes collègues et je leur ai demandé si on leur offrait nos ouvrages, elles pourraient peut-être les tester auprès de personnes dont elles s'occupaient. Alors, certes, il existe des vestiaires, de la distribution de vêtements, mais il s'agit toujours de vêtements de deuxième main ou même de plus de deuxième main, alors que nous offrions des ouvrages neufs. Et les deux personnes qui ont répondu à l'appel m'ont dit qu'elles avaient eu énormément de succès et que les personnes étaient très heureuses de recevoir ces ouvrages tricotés. Donc, on s'est dit qu'on allait continuer. Et il y a eu de plus en plus de tricoteuses qui nous ont rejointes. Nous étions 4 tricoteuses et aujourd'hui, nous sommes 70.
Ah ouais, dis donc, ça a bien grimpé.
Nous avons fait un beau don. Nous avons fait savoir que nous avions besoin de laine. Et nous en recevons régulièrement de particuliers ou de merceries qui veulent nous soutenir. Et en 2023, nous avions 71 couvertures et 1009 écharpes.
Et alors, qui sont les bénéficiaires de ces écharpes et de ces couvertures? Comment procédez-vous pour donner vos ouvrages?
Alors, nous continuons à travailler avec des travailleuses sociales que j'ai connues autrefois et sur lesquelles on peut avoir des retours. Parce que si un jour elles me disent « maintenant vous arrêtez, plus personne n'en veut », on arrête, on n'a pas du tout envie de distribuer les yeux fermés, de nous retrouver après à apprendre que tout est fini à la poubelle, par exemple.
Est-ce qu'il y a de tous les âges parmi les 70 bénévoles que vous citiez à l'instant ?
Parmi les tricoteuses, oui. Absolument. Nous avons notre doyenne qui vient de fêter ses 87 ans et la Benjamine Marjorie qui a 19 ans.
Mais non.
Donc les tricoteuses, mais oui. Et Marjorie nous fait toujours des choses pleines d'originalité avec la vivacité de sa jeunesse, on va dire.
Vous savez ce qui va se passer, Arlette, c'est qu'en entendant cette émission, tous les auditeurs et auditrices vont vouloir envoyer des pelotes de laine à Kunzenthausen. Est-ce que vous êtes prête pour l'afflux de pelotes?
Ce serait merveilleux parce que nous fonctionnons absolument sans intervention financière. Donc, nous tricotons gratuitement, nous distribuons sans contrepartie financière, nous n'avons donc pas d'entrée d'argent et nous attendons d'avoir effectivement des dons de laine. Donc, nous sommes tout à fait prêtes à recevoir toute cette laine et elle sera très, très bien utilisée. Plus nous en avons, plus nous pouvons varier les ouvrages, faire des choses différentes. Parce qu'au début, nous avions des petits restes de laine et nous faisions des rayures. Ça devenait un cauchemar. Et on se disait, lorsqu'on croise quelqu'un qui a un bonnet à rayures, c'est sûrement un bénéficiaire du tricot solidaire.
Oui, parce que les tricoteuses, il n'y a pas d'hommes d'ailleurs, hein. Ce sont uniquement des tricoteuses.
Eh bien oui, tous les ans je fais un appel aux hommes et c'est très singulier puisque nous sommes tous regroupés et il y a les messieurs qui accompagnent leurs femmes, etc. Dès que je fais un appel aux hommes, on les voit disparaître, il n'y a plus d'hommes, ils sont cachés derrière leurs femmes. Non, il n'y a pas d'hommes et j'adorerais avoir des hommes qui tricotent.
Donc en tout cas, on peut tricoter depuis partout en France, hein, et vous envoyez ensuite le résultat.
On peut, oui, exactement, on peut le faire aussi. Nous avons une tricoteuse qui est en Suisse et nous avons une tricoteuse qui est au Havre. Mais c'est clair que c'est parce que nous connaissons l'une et l'autre et que nous nous rencontrons. Envoyer des paquets, ça me paraît peut-être un peu lourd alors qu'il existe certainement sur le lieu où habitent ces personnes des organismes qui distribuent aussi.
Oui, il y a des initiatives similaires un peu partout en France, hein, autour du
tricot. Je suppose, mais bien sûr, il y en a un peu partout.
Le tricot solidaire, c'est donc à Kunzenthausen, dans le Bas-Rhin. Merci beaucoup, Arlette Fink.
Merci beaucoup, Dorothée. Au revoir.
À bientôt, au revoir.
À bientôt.
Et nous jetons un œil à l'itinéraire des semaines à venir. Les carnets de campagne sont bientôt dans l'Aisne et dans l'Eure, en région Hauts-de-France et en Normandie donc. Écrivez-nous si vous avez des idées géniales et des initiatives réjouissantes à signaler dans ces deux départements, l'Aisne et l'Eure.